James, un portrait de femme. Chapitre 31. Isabelle ne revint à Florence que quelques mois plus tard, et l'intervalle entre ces deux séjours fut pour elle assez fertile en incidents. Ce n'est pourtant pas cette époque de sa vie qui nous intéresse le plus, tandis que notre attention a trait à certains jours de l'arrière-printemps, suivant de peu son arrivée au Palazzo Crescentini, un an après la date de la scène précédemment rapportée. Elle se trouvait seule dans une des plus petites pièces consacrées par Mrs. Touchett aux réceptions mondaines, et laissait deviner par son expression et son attitude qu'elle attendait une visite. La haute croisée était ouverte, et bien que les volets verts fussent à demi tirés, l'air vif du jardin entrait par une fente et inondait la pièce de chaleur et de parfum. Notre jeune héroïne se tint un moment debout à cette fenêtre, les mains nouées derrière le dos, jetant au dehors des regards qu'une inquiétude embrumait. Trop troublée pour l'attention, elle s'agitait dans un cercle inutile. Elle ne songeait d'ailleurs pas à guetter l'arrivée de l'hôte attendu, avant qu'il n'eût franchi le seuil de la maison, puisque l'entrée du palais ne se faisait pas par le jardin, où régnait toujours le silence et l'intimité. Elle cherchait plutôt à pressentir l'émoi que lui causerait son arrivée, et à juger par l'expression de son visage, cette tentative n'allait pas pour elle sans effort. Elle se sentait plus grave, plus lourde du poids des souvenirs d'un an passé à voir le monde. Elle avait parcouru l'espace, vu toutes espèces d'hommes, et se trouvait maintenant une personne très différente de la jeune fille frivole débarquée 2 ans auparavant d'Albanie pour commencer à prendre sur la pelouse de Garden Court la mesure de l'Europe. Elle se flattait de quelques acquisitions de sagesse et d'en avoir appris sur la vie bien plus long que ne le soupçonnait même la légère créature d'antan. Si son esprit, pour le moment, se fût abandonné aux visions rétrospectives, au lieu de s'agiter nerveusement dans le présent, il aurait évoqué nombre d'images intéressantes sous forme de décors ou de personnages. Les personnages l'auraient d'ailleurs emporté en nombre, et plusieurs d'entre eux nous sont déjà connus. Il y aurait eu, par exemple, la conciliante Lily, sœur de notre héroïne et femme d'Edmund Ludlow, qui avait quitté New York pour venir passer 5 mois près de sa sœur. Elle avait laissé son mari derrière elle, mais amenait ses enfants, auprès de qui Isabelle jouait avec une munificence et une tendresse égales, le rôle de tante non mariée. Mr. Ludlow, vers la fin, put soustraire quelques semaines à ses triomphes du barreau et, traversant l'océan avec une extrême célérité, passa 1 mois à Paris avec les 2 dames avant de reconduire sa femme en Amérique. Les petits Ludlow n'avaient pas encore atteint, même pour les Américains, l'âge des voyages, si bien qu'Isabelle avait, durant le séjour de sa sœur, rétréci le cercle de ses pérégrinations. Lily et ses enfants la rejoignirent en Suisse au mois de juillet pour passer un beau mois d'été dans une vallée alpestre où les fleurs poussaient drues dans des prairies et où l'ombre des grands châtaigniers offrait un lieu de repos idéal à la suite des ascensions modestes que pouvaient entreprendre des femmes et des enfants par de chaudes après-midi. Après quoi, le petit groupe se rendit à Paris, où Lily fit montre d'une admiration renforcée par des cérémonies dispendieuses. Isabelle, au contraire, trouva la ville bruyante et morne et fit appel pour se réconforter à ses souvenirs de Rome, comme elle aurait pu, dans une pièce chaude et encombrée, avoir recours à un flacon de sel dissimulé dans son mouchoir. Si Mrs. Ludlow, comme je viens de le dire, vouait un culte à Paris, la contemplation de cet hôtel ne suffisait pas à apaiser tous ses doutes et tous ses étonnements, et quand son mari l'eut rejointe, elle découvrit un motif de détresse nouvelle dans le refus qu'il manifesta de prendre part à ses inquiétudes. Elles avaient toutes trait à Isabelle, mais, pas plus qu'il ne l'avait fait jusque-là, Edmund Ludlow ne consentit à se laisser surprendre, chagriner, mystifier, exalter, ou imposer un sentiment quelconque pour quoi que sa belle-sœur eût pu faire ou ne point faire. Les rêves de Mrs. Ludlow étaient multiples et divers. Par moments, elle se disait qu'il serait tout naturel pour sa sœur de venir s'installer à New York et de prendre par exemple la maison des Rossiters, qui possédait une serre élégante et n'était séparée de la sienne que par un coin de rue. À d'autres, elle ne pouvait dissimuler sa surprise de ne pas voir Isabelle épouser un membre d'une des grandes aristocraties. En définitive, elle ne se mouvait plus guère dans le monde des probabilités. L'accession d'Isabelle à la fortune lui avait causé plus de joie qu'elle n'en eût tiré de cet argent si on le lui avait laissé à elle. Elle y voyait le cadre exactement adéquat au personnage un peu mince mais éminent de sa sœur. Isabelle avait pourtant pris moins d'importance que ne le croyait Lily. Cette importance étant à ses yeux représentée de façon mystérieuse par des visites matinales et des soirées. Intellectuellement, à coup sûr, elle avait réalisé d'immenses progrès, mais elle ne semblait pas avoir fait beaucoup de ces conquêtes mondaines dont Mrs. Ludlow avait espéré admirer les trophées. La conception que se faisait Lily de pareille perfection était extrêmement vague, mais elle s'attendait précisément à ce qu'Isabelle lui eût donné forme et corps. Isabelle aurait pu réussir aussi bien qu'elle l'avait fait à New York, et Mrs. Ludlow demanda plus d'une fois à son mari s'il existait en Europe des privilèges dont elle jouissait et que la société de cette ville n'eût pu lui offrir. Nous savons, nous, qu'Isabelle avait fait des conquêtes. Inférieures ou non à celles qu'elle aurait pu faire dans son pays natal, il serait bien délicat de l'affirmer. Et ce n'est pas uniquement par tendresse à son égard que je répète ici qu'elle n'ébruitait pas ses flatteuses victoires. Elle n'avait pas parlé à sa sœur de la requête de Lord Warburton, non plus que de l'état d'esprit de M. Osmond, et l'on aurait su attribuer à son silence de motifs plus précis que sa répugnance à le rompre. Il était plus romanesque de ne rien dire, et, secrètement éprise de romanesque comme elle l'était, elle se sentait aussi peu disposée à demander l'avis de la pauvre Lily qu'elle l'eût été à clore à jamais ce livre précieux. Faute de rien savoir de ses subtilités, Lily ne pouvait que s'étonner de l'étrange carrière de sa sœur, impression confirmée par le fait qu'à l'endroit de M. Osmond, par exemple, le silence d'Isabelle s'aggravait en raison directe de l'insistance avec laquelle il occupait ses pensées. Comme le fait se produisait constamment, elle donnait souvent à Mrs. Ludlow l'impression d'avoir perdu son allant, et cet étrange résultat d'un incident aussi heureux qu'un gros héritage ne laissait pas de rendre perplexe la joviale Lily et contribuait à renforcer en elle l'opinion qu'Isabelle ne ressemblait à personne. C'est seulement après le départ des siens que notre jeune amie sut vraiment manifester son courage. Elle rêvait d'ailleurs d'exploits plus hardis que celui de passer l'hiver à Paris. Paris, par bien des côtés, ressemblait à New York. Paris était comme une prose vigoureuse et nette, et sa correspondance suivie avec Madame Merle faisait beaucoup pour favoriser les essors de son imagination. Elle n'avait jamais plus vivement éprouvé une impression de liberté et d'assurance que lorsqu'elle tourna le dos au quai de la gare d'Houston, un des derniers jours de novembre, après le départ du train qui emportait vers Liverpool la pauvre Lily, son mari et ses enfants. Elle s'était fort bien tirée de ses prérogatives de haute protectrice. Elle en avait pleine conscience. Elle savait fort bien distinguer, comme nous l'avons déjà vu, ce qui était bon pour elle, et son constant effort tendait à trouver ce quelque chose. Pour profiter jusqu'à l'ultime minute de ses avantages actuels, elle avait fait le voyage de Londres avec les voyageurs qu'elle n'enviait pas. Elle les eut accompagnés jusqu'à Liverpool. Si Edmund Ludlow ne l'avait prié par faveur de s'abstenir, sa compagnie rendait Lily trop nerveuse et l'incitait à poser 1000 questions saugrenues. Isabelle regarda le train s'éloigner, envoya des baisers à l'aîné de ses jeunes neveux, enfant démonstratif qui se penchait dangereusement à la portière et trouvait dans la séparation un prétexte à violente hilarité, puis se retrouva dans les rues embrumées de Londres. Le monde était devant elle. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Cette pensée comportait une émotion profonde, mais pour commencer, son goût fut discret et la conduisit simplement à retourner à pied de la gare à son hôtel. Le précoce crépuscule d'une après-midi de novembre était déjà tombé. Les réverbères ponctuaient de faibles taches rouges l'air épais et brun. Notre héroïne restait seule et Houston était à bonne distance de Piccadilly. Isabelle fit le trajet avec un sentiment exquis de ses périls, perdit son chemin à plaisir pour se donner plus de sensations et eut un demi-regret de l'obligeance d'un policeman qui l'a mis dans la bonne voie. Elle jouissait tant de la vie humaine qu'elle aimait, jusqu'à l'heure du crépuscule dans les rues de Londres avec ses foules mouvantes, ses cabs lancés à grande allure, ses boutiques éclairées, ses devantures lumineuses, sa sombre, luisante et universelle humidité. Ce soir-là, à l'hôtel, elle écrivit à Madame Merle qu'elle allait partir pour Rome. Elle gagna la ville éternelle sans toucher à Florence, en passant à Venise et en descendant de là par Ancône. Elle accomplit ce voyage sans autre compagnie que celle d'une femme de chambre, car ses protecteurs naturels n'étaient pas dans les parages. Ralph passait l'hiver à Corfou, et Miss Stackpole avait, en septembre, été rappelée en Amérique par une dépêche de l'Interviewer. Ce journal offrait à sa brillante correspondante un champ d'action plus conforme à son génie que les villes décrépites d'Europe, et le départ d'Henriette avait été adouci par la promesse de Mr. Bentling de bientôt traverser l'océan pour la voir. Isabelle écrivit à Mrs. Touchett pour s'excuser de ne pas venir tout de suite à Florence, et sa tante lui répondit de façon bien typique. Les excuses, disait Mrs. Touchett, ne pesaient pas plus pour elle que des bulles de savon, et elle n'en usait jamais elle-même. On faisait une chose ou on ne la faisait pas, et ce que l'on aurait pu faire appartenait au domaine de l'irréel, comme l'idée d'une vie future ou de l'origine des choses. Cette lettre était franche, mais, fait exceptionnel chez Mrs. Touchett, pas autant qu'elle prétendait l'être. Mrs. Touchett n'en voulait pas trop à sa nièce de ne pas s'arrêter à Florence, parce qu'elle voyait là un signe que Gilbert Osmond n'occupait plus autant de place que précédemment dans son esprit. Elle ne chercha pas moins à savoir s'il allait trouver un prétexte pour courir à Rome, et acquit quelque soulagement de la certitude qu'il ne s'était rendu coupable d'aucune absence. Isabelle, de son côté, n'était pas depuis plus de 15 jours à Rome qu'elle proposa à Madame Merle d'entreprendre avec elle un petit tour en Orient. Madame Merle accusa son amie de ne pouvoir tenir en place, puis ajouta qu'elle était elle-même depuis longtemps en proie au désir intense de voir Athènes et Constantinople. Les deux dames s'embarquèrent donc pour cette expédition, et passèrent 3 mois en Grèce, en Turquie et en Égypte. Isabelle trouva dans ces régions maints sujets d'intérêt, bien que Madame Merle déclara que, même devant les sites les plus classiques et les scènes les mieux faites pour inciter au calme et à la réflexion, elle gardait une certaine incohérence de pensée. Isabelle voyageait rapidement, impétueusement. Elle était comme une personne altérée qui vide verre sur verre. Madame Merle, cependant, dans son rôle de dame de compagnie de princesse voyageant incognito, soufflait un peu sur ses talons. C'était sur l'invitation d'Isabelle qu'elle s'était jointe à elle, et elle prêtait à l'agitation de la jeune fille la dignité nécessaire. Elle jouait son rôle avec le tact que l'on pouvait attendre d'elle, s'effaçait, et acceptait sa situation d'accompagnatrice dont toutes les dépenses étaient largement soldées. Ce rôle ne comportait d'ailleurs aucun revers, et les gens qui rencontraient les deux femmes, si remarquables dans leurs réserves, auraient eu peine à dire laquelle des deux payait pour l'autre. Dire que Madame Merle gagnait à être connue, c'est mal interpréter l'impression qu'elle faisait à son amie, qui avait d'emblée trouvé en elle un commerce si généreux et si aimable. Après 3 mois d'intimité, Isabelle avait la sensation de la mieux connaître. Son caractère s'était clairement révélé, et l'étonnante femme avait fini par tenir sa promesse de raconter son histoire de son propre point de vue, révélation d'autant plus désirable qu'Isabelle l'avait déjà entendue raconter du point de vue d'autrui. Cette histoire était si triste, en ce qui avait trait à feu M. Merle, véritable aventurier sous des apparences appréciables, qui s'était bien des années auparavant prévalu de sa jeunesse et d'une naïveté à laquelle ceux qui la connaissaient maintenant pouvaient à peine croire. Elle abondait en incidents si dramatiques et si lamentables qu'Isabelle s'étonnait qu'une personne si éprouvée eût pu garder tant de fraîcheur et tant d'intérêt dans la vie. Madame Merle lui avait laissé apprécier la qualité de cette fraîcheur. Elle y voyait un instrument professionnel, quelque peu machinal, que l'intéressée emportait avec elle comme le violon du virtuose ou bridé et entouré de couvertures comme le favori du jockey. Elle conservait toujours pour son amie la même affection, tout en se rendant compte qu'un côté du rideau ne se levait jamais sur elle. On aurait dit qu'elle gardait dans sa personne quelque chose d'une actrice condamnée à ne se laisser voir que sur la scène et en costume. Elle avait dit un jour qu'elle venait de très loin, qu'elle appartenait à un monde très ancien, et Isabelle n'échappait jamais à l'impression qu'elle appartenait en effet à un climat moral ou social différent du sien, qu'elle avait grandi sous d'autres cieux. Elle sentait qu'au fond elles avaient une morale différente. Évidemment, la morale de personnes civilisées a toujours beaucoup de traits communs, mais notre jeune personne gardait par devers elle le sentiment de valeur dépréciée, ou, comme disent les boutiquiers, marquée au rabais. Elle considérait avec la présomption de la jeunesse qu'une morale différente de la sienne devait lui être inférieure, et cette conviction l'aidait à déceler un éclair de cruauté, un manque éventuel de sincérité, dans la conversation d'une personne qui avait fait un art véritable de son affabilité délicate et dont l'orgueil était trop haut pour les voies tortueuses du mensonge. On aurait dit qu'elle avait acquis sa conception des mobiles humains à la cour de quelque royaume en décadence, et elle en avait sur sa liste plusieurs dont notre héroïne ne se faisait pas la moindre idée. Elle en concluait avec raison qu'elle ignorait bien des choses et qu'il y avait au monde bien des notions dont mieux valait n'entendre point parler. Elle avait une fois ou deux éprouvé un véritable émoi d'avoir à penser de son amie « Dieu lui pardonne, elle ne me comprend pas ». Malgré l'absurdité de la chose, cette découverte lui causait une souffrance véritable et la laissait dans un état de vague désarroi où se glissait une sorte de pressentiment. Le désarroi s'effaçait bientôt, chassé par la preuve soudaine de l'intelligence remarquable de Madame Merle, mais il restait comme une marque de hautes eaux dans le flux et le reflux de la confiance. Madame Merle avait un jour affirmé sa conviction que l'amitié commence à décliner du jour où elle cesse de grandir et qu'il n'y a point de point d'équilibre entre aimer plus et aimer moins. Une affection étale, en d'autres termes, était chose impossible. Elle ne pouvait que se mouvoir dans un sens ou dans l'autre. Quoi qu'il en fût, la jeune fille trouva mille fois, à cette époque, à déployer son sentiment du romanesque qui était plus que jamais actif. Je ne parle pas de l'impulsion qu'il subit de la contemplation des pyramides, lors d'une excursion au Caire, non plus que d'une heure passée parmi les colonnes brisées de l'acropole, les yeux fixés sur un point qu'on lui désignait comme le détroit de Salamine, malgré l'impression profonde et mémorable que lui laissèrent ses émotions. À la fin de mars, elle revint de Grèce et d'Italie et fit un nouveau séjour à Rome. Quelques jours après son arrivée, Gilbert Osmonde descendit de Florence, et, pendant les 3 semaines de son séjour, le fait qu'Isabelle logeât dans la maison de sa vieille amie Madame Merle rendit virtuellement inévitable leur rencontre quotidienne. À la fin d'avril, Isabelle écrivit à Mrs. Touchett qu'elle serait maintenant heureuse d'accepter une invitation faite depuis longtemps, et, laissant Madame Merle à Rome, alla faire une visite au Palazzo Crescentini. Elle trouva sa tante seule, Ralph était encore à Corfou, mais on l'attendait d'un jour à l'autre à Florence, et Isabelle, qu'il ne l'avait pas vue depuis plus d'un an, lui ménageait la plus chaleureuse des réceptions.